Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureux de recevoir pour ce point de mire Anne Coffinier. Anne Coffinier, bonjour.
Bonjour Christophe Dickès.
Je vous présente donc à nos auditeurs. Vous êtes présidente de la Fondation Nationale pour l'École. Alors vous avez un cursus important. Vous êtes passée par l'ENA, vous êtes passée par NormalSup et vous êtes également diplomate. Vous venez au titre de présidente de la Fondation Nationale pour l'École au micro de Canal Académie pour nous présenter le concours national de la langue et de la culture française réservé aux élèves de CM2 et de 4e. Mais avant d'en venir à ce concours, est-ce que vous pourriez, Anne Coffinier, présenter à nos auditeurs l'objectif de la Fondation pour l'École ?
Bien volontiers. Alors, la Fondation pour l'École est une jeune fondation reconnue d'utilité publique en 2008, dont l'objet est de susciter un renouveau de l'enseignement en France. Alors, bien sûr, il y a ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de problème dans l'enseignement et que l'école va très bien. Et donc, pour ces gens-là, la Fondation est d'aucune utilité. Et puis, il y a quand même tous les autres qui considèrent qu'effectivement, il y a un véritable séisme éducatif dans notre pays et d'ailleurs dans bien d'autres. Ce n'est pas malheureusement le privilège de la France. Et que donc, il convient d'essayer de trouver des solutions pour innover, pour essayer de nous sortir de ce chaos pédagogique, comme certains le nomment, de cette grande difficulté à transmettre des connaissances, à transmettre le goût de l'effort, le goût de l'étude, et donc arriver à faire des générations de personnes qui soient capables à leur tour eh bien, d'être féconds dans leur domaine, d'être capables d'innover, d'apporter leur pierre à la civilisation qui les a nourris et à laquelle ils appartiennent. Donc ça, c'est le cadrage général, si on peut dire, de la Fondation. Ensuite, bien sûr, il faudrait préciser les choses. Donc, la Fondation pour l'École est très attachée à la notion de liberté scolaire. Elle pense qu'il faut être libre pour engendrer à la liberté. Elle pense qu'on a besoin d'établissements de taille humaine avec une véritable indépendance de gestion, une véritable autonomie de gestion. C'est-à-dire que des établissements dans lesquels le directeur est libre de choisir son équipe, de recruter ses professeurs, de choisir sa pédagogie, de définir un style éducatif, un projet pédagogique, eh bien, une école qui se caractérise de cette manière-là a beaucoup plus de chances d'être performante, c'est-à-dire d'être capable de faire des jeunes qui sont bien formés, qui seront capables d'apporter leur pierre à la civilisation, que des écoles qui sont engluées dans un ensemble monolithique, énorme, centralisé, parce que c'est ce système-là de gestion qui caractérise l'éducation nationale, mais aussi malheureusement très largement l'enseignement catholique en France, parce que ce système-là très centralisé en fait, a beaucoup de mal à s'adapter aux nécessités du terrain, a beaucoup de mal à être souple, et surtout a tendance à déresponsabiliser et diluer en fait, les centres de responsabilité dans le système. Et ça, quand on compare les systèmes au niveau international, comme le fait par exemple l'OCDE, l'UNESCO, comme le fait bien sûr aussi la Commission européenne, on se rend compte que c'est mauvais. C'est-à-dire que les systèmes dans lesquels il y a une dilution, un anonymat, une technocratisation de la gestion de la patte humaine, eh bien ces systèmes-là sont, comme on dit en général en économie, sous-optimaux. Donc notre but à la Fondation pour l'École est de valoriser l'autonomie d'établissement, de montrer en fait que c'est plus humain, que ça permet plus de fécondité et ça permet de mieux assurer la raison même de l'école qui est de transmettre et d'engendrer à la liberté, si on peut dire, d'essayer de faciliter cet accouchement à la liberté et à la fécondité qui doit être l'école.
Alors on parle bien d'école dite hors contrat. Qu'est-ce qui justifie au fond le choix d'une telle école ? Quels sont d'ailleurs les chiffres ? Aujourd'hui, existe-t-il beaucoup d'écoles comme cela ? Et quelle est la tendance ? Y a-t-il une progression du nombre de ces écoles ?
Alors, on ne parle pas que d'école hors contrat. La Fondation pour l'École a un rôle qui est, donc, comme je vous le disais, de valoriser, de promouvoir la notion d'autonomie scolaire. Il faut savoir qu'en France, il existe des établissements qui jouissent d'une véritable autonomie scolaire qui ne sont pas des écoles hors contrat. C'est le cas, par exemple, des établissements militaires. C'est le cas, par exemple, de la Légion d'honneur. C'est le cas aussi de tout le réseau des écoles à l'étranger, dans une certaine mesure, notamment par le choix, par détachement du personnel. Donc, par exemple, c'est le cas de tout le réseau de la mission laïque. Donc il existe en France même des cas d'établissements à forte autonomie scolaire. Et l'avant-garde dans ce domaine-là, la pointe avancée, si on peut dire, de la liberté et l'innovation, ce sont les écoles qu'on appelle communément hors contrat et que nous, personnellement, nous appelons plutôt les écoles indépendantes ou bien les nouvelles écoles libres. Ce sont des écoles donc, qui sont allées jusqu'au bout de cette logique d'autonomie et qui ont payé le prix fort, c'est-à-dire une grande pauvreté.
Qu'est-ce qui justifie alors le choix d'une telle école ?
Alors, ce qui justifie le choix d'une telle école, c'est cette nécessité de cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système public et privé sous contrat français, vous ne pouvez pas choisir librement et gérer d'une manière cohérente dans la durée une équipe éducative. Vous pouvez interroger n'importe quel directeur, il vous dira que par rapport au statut qui existe aujourd'hui des enseignants, eh bien un enseignant, une fois qu'il est titularisé, eh bien vous ne pouvez pas essayer par exemple de lui donner la liberté de rejoindre un établissement parce qu'il adhère au système éducatif de cet enseignement, à la pédagogie de cet enseignement. Et inversement, si vous avez un professeur qui ne rentre manifestement pas dans l'esprit du lieu, eh bien vous ne pouvez pas vous en séparer, faire en sorte de recruter quelqu'un qui adhère véritablement au projet. Si vous voulez, le système des écoles aujourd'hui en France est comparable un petit peu à un navire où, en définitive, le capitaine du navire ne choisit ni le cap du bateau, ni l'équipe. Et ensuite, au sein de cette équipe, eh bien, vous avez chacun des matelots qui tirent sur la voile dans un sens qui n'est pas conforme à la direction générale. Donc, dans ces conditions-là, le bateau ne peut pas avancer et ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, dans les écoles, tout le monde souffre de cette grande hétérogénéité dans la vision même de ce qu'est éduquer. Aucun professeur dans une salle de professeurs ne partage la vision de son camarade. Et la discussion même est en général impossible. Ce n'est même plus un lieu d'échange, les salles des professeurs. Donc en fait, les professeurs se referment sur eux-mêmes et sont conduits à une forme d'autarcie qui est une grande misère, une grande solitude du métier aujourd'hui. Et ça nous paraît très mauvais. Il faut vraiment permettre, au sens réel du terme, pas, c'est un terme malheureusement tout à fait galvaudé, mais il faut permettre qu'il y ait une véritable communauté éducative. L'enfant a besoin de quelque chose de cohérent et le professeur aussi a besoin de quelque chose de cohérent. Il a besoin de pouvoir coordonner son activité avec celle de son collègue, de pouvoir travailler en intelligence, toujours retravailler de manière à faire un enseignement de plus en plus sophistiqué, de plus en plus efficace, de plus en plus adapté au terrain. Et donc cette autonomie de gestion, elle est évidente. Vous regardez tous les pays à l'étranger, vous regardez historiquement ce qui s'est passé, c'est le modèle ultra dominant. Il faut bien voir.
C'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, la France aurait un retard par rapport aux tendances des pays occidentaux aujourd'hui ?
Tout à fait. La France est victime d'une sorte d'enfermement. Alors elle appelle ça parfois spécificité française, une espèce de complaisance à ne pas vouloir dépasser l'horizon franco-français, à rester dans des schémas de lecture privés contre public, guerre scolaire, laïque, religion, etc. Des schémas qui sont complètement tombé en désuétude à l'étranger. Ça n'a pas de sens. Vous allez par exemple en Angleterre, vous avez le public, l'argent public qui finance les écoles privées. Vous avez des bienfaiteurs privés, des entreprises, des collectivités locales aussi qui vont financer des écoles publiques. Toute cette réalité publique-privée, mais personne n'est au courant de savoir si c'est une école publique ou privée. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de bien comprendre que les enfants sont pluriels. Il y a une véritable diversité chez les enfants, une diversité de tempérament, d'aptitudes et d'aspiration. Et qu'on ne peut pas gaver les oies avec une espèce de potion obligatoire dans un contexte anonyme et unique sans tenir compte de la diversité des aspirations et des besoins des enfants. C'est absolument inefficace.
Alors, quelques chiffres, Anne Coffigny.
Alors, les écoles indépendantes en France représentent 450 écoles. Alors, quand on dit école, ça va de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc, dans ces écoles, il y a toutes sortes d'écoles, les écoles à pédagogie particulière. On connaît bien Montessori, Steiner. Ça peut être aussi des écoles bilingues. Il peut s'agir aussi d'écoles religieuses, bien qu'elles ne soient en général pas confessionnelles. Donc, il y a les écoles juives, il y a des écoles catholiques qui ne sont pas confessionnelles, mais qui sont fortement inspirées par cet esprit de catholicité. Il y a des écoles protestantes. Il y a des écoles à pédagogie ou horaires spécifiques, par exemple, pour pouvoir faire de la musique, pour pouvoir faire du théâtre, ou avoir une véritable innovation dans la manière d'organiser le temps, d'organiser même la manière de travailler. Donc, par exemple, dans notre revue, nous avons fait un zoom, si je puis dire, sur la notion de capitainerie qui avait été développée par Charlier, qui est quelqu'un de tout à fait intéressant. Et nous rééditons d'ailleurs ses lettres au capitaine. Donc, cette notion de capitainerie, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui émerveille d'ailleurs des gens extrêmement variés. y compris des bons syndicalistes de l'éducation nationale, qui trouvent ça génial. C'est l'idée, en fait, de responsabiliser les grands dans un établissement pour les aider eux-mêmes à accéder à la véritable responsabilité en aidant les petits à grandir. Donc les petits, en fait, se tournent naturellement vers les grands et les grands, en fait, sont responsabilisés et, en quelque sorte, ils grandissent à cause du service qu'ils doivent rendre aux petits. Donc ça, c'est merveilleux. C'est développé dans plusieurs écoles indépendantes et c'est tout à fait intéressant à voir.
450 écoles, c'est un phénomène en progression ?
Alors, ça correspond à 47 000 élèves, donc c'est pas si ridicule que ça. Et il y a à peu près une vingtaine d'ouvertures d'écoles par an. Et quand on voit la difficulté économique, on sait bien ce que c'est que créer une entreprise, mais créer une structure qui n'a pas vocation à rapporter de l'argent, créer une structure vraiment difficile à gérer, où les fins de mois sont difficiles, c'est encore une autre paire de manches. Donc s'il y a une vingtaine d'écoles qui se créent par an, c'est que ça correspond à quelque chose d'extrêmement nécessaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des sacrifices énormes. Donc, en fait, s'il y avait un minimum de financement, le mouvement serait beaucoup plus fort.
Alors, venons-en à la raison pour laquelle vous êtes à ce micro. C'est le Concours national de la langue et de la culture française. C'est un concours qui s'adresse à qui ?
Alors, ce Grand Prix de la Fondation pour l'école, effectivement, un concours national de langue et de culture française, est destiné à absolument tous les enfants de CM2 et de 4e. Le but, c'est d'encourager cet amour de l'écriture, cet amour de la littérature que bien des enfants ont, mais qui n'est pas vraiment encouragé, en fait, dans le système pédagogique actuel. Vous avez des examens qui sont très académiques, très figés, et malheureusement aussi, il faut reconnaître que l'enseignement de la littérature en France souffre beaucoup d'une approche, qui manque d'humanité, qui manque de corps, qui manque d'âme. C'est devenu une espèce d'enseignement très technique. Alors, on joue les trissotins, on doit chercher les figures de style, on doit mettre les textes dans des cases. Mais toutes ces activités-là ne disent rien aux jeunes qui recherchent le sens de sa propre vie, qui est sensible à la beauté d'un texte. Par exemple, la notion même d'admiration a été complètement évacuée de l'approche de la littérature. Vous voyez, un jeune, il cherche un texte, il cherche une phrase, il cherche un style, il cherche aussi un auteur, un modèle humain. C'est ça qui va l'attirer dans la littérature. Il ne cherche pas des figures de style et des catégories littéraires. Ou alors, il est dans une optique qui est déjà une optique morte, qui n'a pas d'intérêt. Donc, cette approche de la littérature, très vivante. J'aime beaucoup à citer en fait, un musicien dont j'aimais bien le rapport à la musique, c'est Pierre Barbizet, un pianiste de Marseille, grand ami de Rampal, qui disait que lui, ce qu'il aimait bien dans la musique, ce n'était pas de jouer de manière magnifique, ce n'était pas d'aller à un concert extravagant. Non, c'était d'y aller lui-même. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait, c'était qu'on lui donne un Stern, qu'on lui donne un très grand musicien, on lui donnait les partitions, et puis il y allait lui-même, il tripatouillait, il mettait les mains dans la matière, il y allait, si vous voulez. Eh bien, la littérature, c'est pareil. Il faut donner aux enfants le goût d'y aller eux-mêmes, de tripatouiller, quitte éventuellement à pas très bien comprendre, à mal s'y prendre, mais par exemple, développer le sens du pastiche, développer le goût d'écrire selon un tel ou un tel, développer la jouissance du texte comme quelque chose, l'objet d'une sorte de manducation, de rumination, c'est quelque chose de déterminant. Maintenant, aller faire les trissotins et les pédants sur des thèses qu'on n'a même pas lues en entier, dont on n'a aucune idée, on ne sait même pas dans quel courant littéral général ça s'insère, pourquoi, comment, ça n'a pas de sens. Donc si vous voulez, ce prix, ce petit prix littéraire, il sert à valoriser les amoureux de la langue française. Ceux qui sont dans cette logique de jouissance, c'est quelque chose qui peut se développer très tôt. Moi, je connais des enfants de CM2 qui sont dans cette approche-là.
Il est donc ouvert à tous les enfants de CM2 et de 4e.
Alors, tous les enfants de CM2 et de 4e ou bien qui ont cet âge-là. Parce que, alors, quand je dis tous, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire le public, le privé sous contrat, le privé hors contrat, l'enseignement par correspondance, qui est une réalité qui se développe à la suite des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, ce sont des millions d'enfants. Pareil en Chine, ce sont des millions d'enfants qui étudient par correspondance. C'est aussi une des révolutions Internet dont on ne prend pas très bien la mesure aussi. Et puis aussi aux enfants qui font ce qu'on appelle l'école à la maison. Tous ces enfants-là, en général, développent une grande passion de la lecture parce qu'ils ont beaucoup plus de temps libre que les autres.
Oui.
Et en général, un goût de la littérature et de l'écriture. Et il est très important aussi pour ces enfants de se confronter à d'autres enfants. Donc notre idée, c'est de permettre à des profils, comme on dit parfois, extrêmement variés, de se retrouver réunis sur un concours qui est un concours des amoureux de la langue française. Ceux qui sont littéralement habités par le bonheur de lire et d'écrire et qui sont ravis de faire une rédaction, qui sont ravis de partager, de pouvoir ensuite avoir la perspective de partager leurs textes et puis de rencontrer des grands écrivains qui seront dans le jury du concours et de pouvoir communiquer et communier, si on peut dire, dans cette grande fraternité des hommes de lettres. Alors, toute petite place, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire croire que ce sont des grands écrivains.
Alors, quelques dates.
Le Grand Prix de la Fondation pour l'École est organisé dans la semaine de la langue française, c'est-à-dire la semaine du 22 mars. Le prix est gratuit. Le système est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur le site Fondation pour l'École. Les professeurs s'inscrivent par courriel. On leur envoie la marche à suivre. Ils photocopient les sujets et organisent l'épreuve la semaine de la langue française, le jour qui leur paraît le plus adapté. Ensuite, les professeurs envoient les trois meilleures copies, enfin deux, trois ou quatre selon les effectifs, à la correction à Paris. À Paris, tout cela est recorrigé, classé. Et ensuite, eh bien, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'il y a un prix à la mi-juin qui est organisé, une remise des prix qui est organisée, et de très beaux prix culturels seront remis aux lauréats de ce concours. Alors notamment des voyages dans des pays européens avec des soirées à l'opéra. Tout cela est donc, me semble-t-il, assez enthousiasmant pour des jeunes qui à la fois ont envie de voyage, comme tous les jeunes du monde, et en même temps ont envie de beauté et d'expérience artistique et d'expérience culturelle.
Nous renvoyons nos auditeurs au lien fondationpourlecole.org qui est donc sur notre site canalacademy.com. Y a-t-il d'autres activités pour la Fondation pour l'École ?
Bien sûr, donc le cœur de métier de la Fondation pour l'École, c'est de rechercher des fonds pour les donner aux écoles indépendantes. Donc nous donnons à peu près 800 000 euros de dons par an aux écoles indépendantes. Et donc par exemple, les personnes qui sont assujetties à l'impôt solidarité sur la fortune, et bien souvent, se tournent vers nous pour dire, eh bien, nous comprenons votre action, c'est une action importante pour assurer l'avenir même de notre culture. Et donc nous vous faisons un don pour aider les écoles. Donc ça, c'est le premier aspect qui est un aspect de financeur des écoles complètement indépendantes. Le deuxième aspect, c'est un aspect de formation de la relève, c'est-à-dire que nous avons une faculté qui s'appelle l'Institut libre de formation des maîtres, qui compte 100 étudiants. Et dans cette faculté, nous formons les maîtres d'école libres de demain, donc en formation initiale, sur 2 ans par alternance. Donc c'est une formation à laquelle on peut accéder après un diplôme Bac plus 3, avec un concours d'entrée. Et nous formons par ailleurs, dans le cadre de la formation continue, nous sommes organismes de formation continue, les professeurs en activité qui veulent apprendre des éléments de pédagogie classique au sens du souci de transmettre des connaissances. Ça paraît évident, mais malheureusement, on en arrive à des évidences actuellement. Il y a tout un courant qui considère qu'on n'a rien à transmettre, puisque les enfants, en fait, peuvent tout redécouvrir par eux-mêmes. Il s'agit juste de les mettre en situation de fécondité naturelle. Alors que notre approche est une approche délibérément transmissive, ce qu'on appelle aussi dans le jargon instructionniste. C'est-à-dire que nous pensons que notre devoir d'adulte est de transmettre le trésor que nous avons reçu, si possible même mieux que nous l'avons reçu en travaillant, de manière à ce que la génération qui arrive ne parte pas à zéro, mais qu'elle parte riche de ses trésors de la civilisation. Donc cette faculté travaille, forme ses élèves, organise aussi des cycles de conférences. Par exemple, nous avons le 13 mars à 18h, l'académicien Rémi Brague qui fera une conférence magnifique, je présume, parce que le sujet est magnifique, sur « La culture supporte-t-elle l'idée de vérité ?» Un sujet magnifique et difficile. Dans le cycle d'après, en mai, nous aurons Olivier Rey, mathématicien, philosophe très intéressant, sur le sujet de transmettre en démocratie. Donc notre idée aussi, c'est de donner toute une matière intellectuelle aux futurs professeurs pour nourrir leur esprit et se rendre compte de la dignité particulière qu'a leur métier. C'est un métier de vocation, c'est un métier d'élite que celui de maître d'école.
Vous organisez le 2 juin prochain également un colloque au Sénat.
Tout à fait. Notre but, ce n'est pas simplement d'aider les écoles indépendantes. Notre but est un but de réforme générale. C'est une action d'intérêt général. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons reçu du Conseil d'État et du Premier ministre la reconnaissance d'utilité publique. Notre but est de concourir autant que possible vraiment au relèvement de l'enseignement en France et donc bien sûr aussi l'enseignement public. Il y a 80% des enfants qui sont dans l'enseignement public. On ne va pas s'amuser à considérer qu'il n'y a rien à faire pour eux. Donc notre but est de dire que le moyen de relever l'enseignement public et privé d'ailleurs, c'est de se résoudre à aller vers l'autonomie d'établissement. et donc de permettre aux directeurs de choisir leur équipe, de les former de manière conséquente, de s'en séparer lorsqu'ils ne sont pas bons, parce que ça arrive des mauvais professeurs, comme ça arrive des mauvais, tout ce qu'on veut, des mauvais diplomates, des mauvais journalistes, tout existe. Et donc tout arrive, et donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir être libre, il ne faut pas avoir peur de dire que les enfants passent d'abord, les enfants passent avant les professeurs. Et donc si dans une équipe, eh bien, il n'y a pas d'unité de vue, il n'y a pas cette espèce d'alchimie qui fait que ça marche, eh bien, il faut pouvoir redessiner cette équipe-là. C'est déterminant. Donc ce colloque a lieu le 2 juin, c'est un colloque international. Donc il est organisé entre 3h et 19h. Et le but, c'est de faire connaître aux hommes politiques ce qui se passe en France au niveau, le blocage, on peut dire, qui se passe au niveau scolaire, les pistes de renouveau que nous indique l'OCDE, mais les expériences aussi à l'étranger. On aura probablement l'initiateur des modalités de liberté en Suède qui va venir faire une conférence sur la manière dont ça induit beaucoup plus de justice sociale et d'efficacité pédagogique que ce choix-là, tout à fait novateur. Et on aura des témoignages d'écoles françaises qui jouissent d'une véritable autonomie d'établissement, et notamment la surintendante générale des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, qui expliquera pourquoi il y a une spécificité de sa maison, parce qu'elle jouit d'une autonomie de gestion, au moins de recrutement des professeurs. Il y aura aussi l'inspecteur général honoraire Daniel Mallet, qui est à la tête d'un ensemble d'inspecteurs d'académie qui militent pour cette logique d'autonomie d'établissement, parce qu'ils se rendent bien compte que les professeurs et les directeurs meurent de cette asphyxie totale, cette absence de liberté, de responsabilité. Donc il y a tout un mouvement fort pour sauver l'école à travers le retour des responsabilités. Il faut arrêter d'avoir peur de la liberté.
Eh bien, c'est sur ce mot de liberté, Anne Coffigny, que nous allons nous quitter. Donc, je rappelle ce concours national de langue et de culture française réservé aux élèves de CM2 et de 4e de tout établissement. Les dossiers, donc la totalité des dates, et vous pourrez voir tout cela sur notre site canalacadémie.com et sur le site Fondation pour l'école tout attaché centredunion.org. Merci beaucoup, Anne Coffigny.
Merci beaucoup, Christophe Dickès.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Point de Mire.